biblique ou de la maçonnerie biblique, j'ai envie de vous parler de la maison comme église, comme lieu de la présence de Dieu dans la Bible, et la manière surtout dont Jésus et les apôtres font de la maison en fait un lieu central de l'annonce de l'évangile et pour Jésus un lieu central de son ministère. Et c'est quelque chose qui me. J'ai été encouragé en fait en
Rémi, deux secondes, on t'entend plus en fait. Tu as muté ton micro apparemment.
Là, c'est bon.
Ouais, c'est bon. Nickel.
Je me suis arrêté où?
Quand tu disais bonjour, je crois.
Bonjour. Alors, je recommence.
Non, tu avais parlé de la maison.
Ouais, j'avais parlé de la maison. Je ne sais
Oui.
pas où j'en suis, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de parler du thème de la maison dans la Bible, de la maison centrale dans le ministère de Jésus. J'ai été encouragé dès le premier chant quand. Le chant a été « Nous sommes l'Église ». Je trouve que la place de la maison et de l'Église de maison et des maisons au service de Dieu dans l'Évangile est très forte et que c'est une des affirmations que nous sommes l'Église, que l'Église, ce n'est pas juste un bâtiment, que ce n'est même pas du tout un bâtiment, mais que c'est nous. Et une des manières dont ça s'exprime, c'est que nos maisons, le lieu où nous vivons, le lieu où nous sommes, servent Dieu. J'ai été aussi encouragé par cette parole qui disait que on est on est encouragé là dans les dons qui ont été donnés à nous affirmer en tant qu'Église. Et je crois qu'une des manières de nous affirmer en tant qu'Église, c'est lié aux églises de maison. Et j'ai encore été encouragé par cette parole qui disait d'amener quelqu'un de l'autre côté de la gare jusqu'au palais. Et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi en amenant chez moi. Des personnes, parce que la maison, c'est aussi un palais de la présence de Dieu. Et toutes ces petites choses, en fait, qui sont dites, pour moi, en tout cas, je pense, vous allez le voir avec la suite, rejoignent ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et vous savez, Jésus, il passait beaucoup de temps à enseigner au temple de Jérusalem, et c'était le lieu central de la foi juive en son temps. Et il passait beaucoup de temps avec ses disciples là-bas, il enseignait là-bas, et les chefs religieux n'aimaient pas beaucoup ça. Et je pourrais vous citer pas mal de versets à ce sujet. J'en prends quelques-uns. Dans Luc 21, 37, il écrit: Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple où il allait passer la nuit à la montagne, appelée la montagne des Oliviers. Et il allait passer la nuit à la montagne, appelée la montagne des Oliviers. Dans Jean 8, 2, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Et on a d'autres versets comme ça. Donc Jésus, il enseignait au temple, c'est une des choses qu'il faisait. Mais il y avait d'autres lieux où Jésus enseignait. Jésus, il enseignait dans les synagogues. Et on le voit beaucoup enseigner dans synagogue et aussi faire des miracles de délivrance et de guérison dans les synagogues. Et encore une fois, les chefs religieux, ils n'aimaient pas ça. On voit dans Matthieu 13, 54, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans les synagogues de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Et dans Luc 6, 6, il arriva un autre jour du Shabbat, Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche, et il va guérir cet homme. Dans Luc 13, 10, Jésus enseignait à la synagogue le jour du sabbat. Dans Luc 4, 15, il enseignait à la synagogue, et il était glorifié par tous. Et lorsqu'il faisait notamment des miracles, là, les chefs n'étaient pas contents. Et ça, c'est une partie de ce que faisait Jésus. Mais il y a un autre endroit où Jésus aimait beaucoup passer son temps, c'est les maisons individuelles. Et je vais aller un petit peu là-dedans et je veux prier maintenant que le Seigneur nous guide et nous enseigne au travers ce thème. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. tout-puissant, plein de gloire, plein de beauté, plein de pureté. Tu es le Dieu qui se révèle publiquement et tu es le Dieu de l'intimité. Et tu es le Dieu de la relation intime, de la maison, de la famille. Et il y a en toi une intimité éternelle. Dans le cadre des relations qui lient le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu es une maison, tu es un temple, tu es un lieu d'adoration en toi-même. Seigneur, c'est juste extraordinaire de nous rendre compte que alors que tu étais venu sur terre dans ton incarnation, tu étais dans les maisons. Et que alors qu'aujourd'hui tu nous dis « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce n'est pas vrai seulement dans le bâtiment des églises. C'est vrai à chaque endroit, à chaque instant et de manière toute spécifique dans nos maisons. Je te prie qu'aujourd'hui, notre vision de cet aspect soit sanctifiée, purifiée, glorifiée, amenée à un autre niveau de compréhension pour que nous puissions en faire nôtre ces vérités et mieux te servir. Amen. Je crois qu'en tant que chrétien, on devrait toujours avoir des lieux un peu plus solennels, hein, comme l'église le dimanche. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il ne faut que faire de l'église de maison. Je sais que c'est l'avis de certains, mais je pense qu'un peu à l'image du temple et des synagogues, des moments pour nous réunir en grand groupe, avoir des enseignements en grand groupe, avec un culte large, avec une plus grande audience, tous unis dans la louange, avec les dons spirituels qui sont là dans ce cadre, ça marche. Je vois que Jésus dit que le temple va être détruit, mais je vois jamais qu'il remet en question les synagogues, en fait. Ces synagogues qui sont en fait les assemblées locales, qui sont les lieux où on écoute la parole. Je vois pas vraiment de remise en question franche de ça de la part de Jésus. Et je trouve que, en quelque sorte, nos réunions hebdomadaires sont des continuations de ça, des extensions de ça. Et Jésus allait prêcher dans les synagogues. Il n'a pas dit de les fermer. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à étudier dans la Bible par rapport à ça. Mais malgré le fait qu'il y a cette réalité-là, j'arrête pas de le dire et maintenant je vais passer au sujet. Jésus prêche dans les maisons et Jésus parle dans les maisons et Jésus est dans les maisons. J'ai entendu que vous aviez des groupes de maisons, des groupes, nous on les appelle les groupes de vie, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais en tout cas nous on les appelle les groupes de vie. Et c'est des moments et des endroits hyper précieux, des moments très importants. C'est très important de ne pas centraliser la vie des membres de l'Église dans le bâtiment et d'avoir des groupes de maisons. Et vous savez, Jésus, il avait un groupe de maisons. Et il y avait une maison dans laquelle il aimait bien aller et dans laquelle ils ont vécu des super trucs. Et c'est la maison de Pierre à Capernaum. Et je ne sais pas si vous savez, mais cette maison, on pense connaître l'endroit où elle est et connaître ses ruines en Israël. Et vous savez, il y a des lieux qu'on appelle des lieux folkloriques, c'est-à-dire des lieux qu'on a attribués après coup en disant bah, « là, il s'est passé ci, ça, là, il s'est passé ça dans la Bible », mais ce n'est pas vraiment vrai. Et pour la maison de Pierre à Capernaum, il y a grande majorité d'archéologues qui pensent que c'était vraiment la maison de Pierre. Et il y a eu plusieurs églises qui se sont construites là au cours des siècles après. Et c'est hyper intéressant de se dire, en fait, les endroits dont Jésus, où Jésus a été, où il s'est passé un certain nombre de choses comme cette maison, c'est des endroits physiques, observables. Et ce dont on parle il y a 2000 ans, c'est très incarné, c'est très vrai, c'est dans la pierre. Et l'histoire est encore marquée de ça. Cette maison, on voit par exemple dans Matthieu 8, 14 que Jésus, il a fait un miracle quand il a guéri la belle-mère de Pierre. Il y a écrit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. » Et donc, Jésus, il est là, en fait, dans le quotidien de Pierre et de sa famille. Et tout simplement parce qu'il est là dans le quotidien de Pierre et de sa famille, eh ben, il y a une guérison qui arrive. Et la belle-mère de Pierre, Elle est immédiatement au contact de celui qui est le Dieu qui guérit. Et c'est très intéressant parce que le verset, il continue. Et il y a marqué, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse tout ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Et en fait, non seulement Jésus, dans la maison, il a guéri la belle-mère de Pierre, mais certainement au pied de la maison, on a amené Jésus. C'était peut-être dans la maison, c'est peut-être dans la cour de la maison, on ne sait pas trop. Mais là, il a fait des délivrances. Je ne sais pas si vous imaginez ça dans votre voisinage. Je ne sais pas si vous avez ce que ça serait en fait. Si on vient, on toque à votre porte, vous sortez et là sur le perron, on vous dit, il y a cette personne qui est démonisée, que vous commencez à prier pour cette personne et les démons partent. En fait, Jésus, il n'est pas en train de faire des miracles au temple ou des miracles à la synagogue, il fait des miracles. Et il fait des miracles là où il est. Et il fait des miracles dans les maisons, aux abords des maisons. Et l'évangile est un évangile de puissance. Et la puissance, elle ne doit pas être contenue dans des lieux qui sont strictement fermés. La puissance, c'est Dieu qui rencontre des gens là où ils sont. Et l'Église, n'est pas que ce lieu-là, c'est les gens remplis de l'Esprit et qui le servent. Et j'aime beaucoup ce fait que ce qu'on pourrait penser voir dans une église, bah en fait, dans l'évangile, on le voit dans la rue, on le voit dans les maisons, on le voit dans la cour juste devant la maison. Et ça, je crois, devrait nous faire travailler nos représentations toujours plus de ce que Dieu veut de nous. Et c'est probable, en tout cas, que ça s'est passé dans la maison. Ou devant la maison, parce qu'il y a d'autres textes où Jésus, il est dans la maison et on vient le chercher. Et il est encore à Capernaum, par exemple, en Marc 2, il est dans la maison de Pierre. Il écrit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et j'aime bien le à la maison. Il n'y a pas marqué dans la maison de Pierre, il était à la maison. Et on sent que c'est, il est chez lui, quoi. Il est à la maison. Et je trouve ça assez cool. Et donc, il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, donc il prêche. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et après, il y a les chefs religieux qui sont quand même là. C'est ça qui est intéressant. Il est à la maison, mais les chefs religieux, ils pointent leur bout de leur nez. Ils vont même regarder ce qui se passe chez toi, les religieux. Les religieux, ils veulent savoir même ce que tu fais dans ta chambre. Et ce qui se passe, c'est que dans sa chambre, Jésus, il guérit le paralytique. Et là, les chefs religieux, ils ne sont pas contents. Il se passe des choses plus grandes à la maison qu'au temple. Il se passe des choses incroyables. Et donc, il va guérir le paralytique et en plus de ça, il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Donc, il va lui annoncer le salut chez lui. C'est extraordinaire. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il n'y a même pas la place pour rentrer. En fait, les gens veulent voir Jésus, ils ne peuvent pas rentrer, donc ils passent par le toit. Et je ne sais pas si un jour, vous avez fait un groupe de maisons qui était tellement bondé que les gens voulaient rentrer par le toit ou par la cheminée ou par la fenêtre pour pouvoir vivre ce qui s'y passe. Mais moi, j'espère que nos groupes de maisons, bientôt, ils vont ressembler à ça, vous voyez? Et je pense que pour que ça arrive, il faut qu'on ait une vision que Dieu est là, qu'il est présent et que Christ est vraiment au milieu de nous dans nos groupes de maisons. Et parfois, à cause de nos organisations respectives, on a un peu la flemme d'aller au groupe de maisons, on a un peu la flemme d'aller au groupe de vie, on a un peu la flemme. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça, c'est vrai que parfois. Bon, ben voilà, on a déjà fait la réunion du dimanche, alors est-ce qu'on va faire une réunion en plusieurs semaines? Mais ce n'est pas une question de ça. C'est une question qu'il y a Jésus là. Et que dans cet endroit, Jésus, il peut faire des trucs incroyables, en fait. Si on exerce la foi comme le paralytique, il va se passer des choses folles dans les maisons. Et donc, la maison, c'est un lieu de salut. C'est un lieu de guérison. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où Jésus aime être. Et il veut être avec vous dans vos maisons. Il veut être avec nous dans nos maisons. Un peu plus tard, Dans Matthieu 9, 14, on lit, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. C'est dans Matthieu 9, 2. Il lui dit, suis-moi. Cet homme le suivit, se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, donc là, il est à table dans la maison. Pareil, on ne dit pas quelle maison. C'est à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Il est à table. Comme il était à table à la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et donc là, la maison, c'est le lieu où juste Jésus il mange avec des gens de mauvaise vie. Il mange avec des gens mal vus. Et en fait, c'est marrant parce qu'on dirait presque que c'est une auberge. On a presque l'impression que ben voilà, il mange et puis il y a d'autres gens qui mangent et que c'est comme un restaurant. Mais en fait, il est à la maison. Et il semble que le lieu de vie où était Jésus et où étaient les apôtres, c'était un lieu de vie qui était suffisamment ouvert pour que ce soit un endroit où on fasse la tambouille pour des gens et que les gens soient les bienvenus. C'était un lieu d'accueil. Et c'était un lieu d'accueil de ceux que les chefs religieux rejetaient. Et c'est très intéressant ça. Parce que chez soi, on invite qui on veut. Chez soi, on invite qui on veut. Et il y a des personnes qu'on aurait peut-être du mal à inviter dans un lieu public. Mais si toi, tu as à cœur d'inviter chez toi à un moment donné, pour une raison précise, une personne que Dieu te met à cœur, fais-le. Alors, mon encouragement, c'est surtout pas inviter n'importe qui chez vous, surtout si vous avez des enfants. Il faut faire attention à ça. On n'est pas naïf en tant que chrétien. Et il y a des gens qui je pense, faut mettre à distance de nos enfants. Moi, je n'invite pas n'importe qui, n'importe quand. Mais il m'est arrivé d'inviter des gens démonisés chez moi quand il n'y a personne et de prier pour eux et de prier de leur délivrance. Et c'était génial. Génial. Il m'est arrivé d'inviter des gens qui dorment dans la rue. Il m'est arrivé d'inviter des gens qui s'étaient frappés dans le métro à Paris et juste de les restaurer, de les rétablir, de passer du temps avec eux. Et Jésus, il fait ça. Jésus, en fait, il passe du temps avec les gens que tout le monde rejette, mais que le Père aime. Et il ne le fait pas au temple ou à la synagogue, il le fait chez lui. Et donc, son espace vital devient un lieu de son ministère. Ça nous devrait nous impacter tous dans notre représentation de ce que je fais avec ma maison, ce que je fais avec mes biens, ce que je fais avec ma cuisine, ce que je fais avec ce qu'il y a dans mes tiroirs, avec le chocolat et les bonbons que j'ai. Jésus, il partage ça. Ce n'est pas une leçon de morale hein, que je suis en train de faire. Je suis juste en train de sourire de voir que Jésus, il est tellement un homme de terrain. Jésus, ce n'est pas un théologien. Jésus, ce n'est pas une personne qui juste fait un ministère. Jésus, c'est Dieu incarné dans tous les moments de la vie. Et voilà, il ouvre sa maison. Il a un amour des pécheurs. En Matthieu 13, à partir de verset 36, on lit ça. Alors, il renvoyait la foule et en entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » En fait, dans Matthieu 13, Jésus, au tout début du chapitre, il sort de la maison et il s'assit au bord de la mer. J'aime beaucoup ce Jésus-là, moi. Ce Jésus qui il sort de la maison et il va s'asseoir au bord de la mer. Déjà, je trouve ça incroyable. Moi, il est comme nous. Il aime juste être assis au bord de la plage. Et il sort de la maison et là, au bord de la mer, il y a une grande foule qui s'assemble auprès de lui. Et il monte dans une barque et toute la foule se tient sur le rivage et il les enseigne. Mais ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est que quand il re-rentre dans la maison, ses disciples, ils lui demandent des explications qu'il n'a pas données en public. Et donc, ça veut dire que la maison, c'est l'endroit où il va approfondir des vérités qu'il a données en public. Très intéressant parce qu'on a choisi dans notre église à LDN de revenir dans nos groupes de maison sur la prédication du dimanche et d'approfondir par des questions et des moments de prière ce qui s'est dit là. Et je crois que c'est biblique en fait. Je crois que dans nos maisons, on est moins nombreux, on est en plus petit comité. On peut commencer à peut-être parler, poser des questions. Ceux qui n'ont pas compris le passage, ceux qui se posent des questions plus pratiques peuvent les poser. Et tout d'un coup, ce qui est dit en public le dimanche redevient quelque chose encore plus personnel. Sauf que si on n'a pas de groupe de maison, si on n'invite pas les gens dans les maisons, si on n'a pas des frères et des sœurs dans les maisons, on rate ça. On se contente de la partie émergée de l'iceberg du dimanche. Et c'est très bien, c'est une bonne partie. Mais il y a d'autres choses, des endroits pour aller plus loin. Et les maisons, c'est aussi fait pour ça. Dans Matthieu 26, au verset 6, il écrit « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, donc là, il est dans la maison, à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher en donnant le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Là, en fait, on a un des passages les plus touchants de l'Évangile où une femme va répandre du parfum sur les cheveux de Jésus, sur sa tête, va l'embaumer. Et peut-être que c'est une situation qui aurait pu se passer dehors, mais j'ai l'impression qu'il y a une intimité. Cette femme, elle arrive à s'approcher de Jésus. Et je ne suis pas sûr que dans la culture juive, on pouvait s'approcher d'un homme comme ça si souvent. Et là, cette femme, dans cette maison, elle se sent le droit de s'approcher, de toucher Jésus, en tout cas de lui mettre du parfum sur les cheveux. On imagine qu'elle peut lui toucher ses cheveux. Et en fait, c'est un moment extraordinaire. En fait, on est en train de vivre un truc bizarre. Bizarre, mais beau. Et Jésus, il valorise ça. Et il dit ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle est en train de faire quelque chose que vous ne comprenez pas. Elle a une sensibilité. Parce que l'Esprit Saint, certainement, est en train de travailler le cœur de cette femme. Elle voit, elle vit quelque chose que vous, là, les 12 apôtres, là, les 12 hommes, là, vous n'avez pas pigé, vous n'avez pas capté. Cette femme, elle est en train de répandre du parfum sur ma tête à cause de ma sépulture. Et il y a un détail qui est frappant dans ce passage, c'est qu'il n'est pas dans la maison de Pierre, là. Là, il est dans la maison de Simon le lépreux. Mais vous pensez vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui venaient dans la maison de Simon le lépreux? Vous pensez vraiment qu'on avait envie de rentrer dans la maison d'un lépreux? Ben Jésus, il est dans la maison de Simon le lépreux. Et parce qu'il est là et parce qu'il est Jésus, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec ses apôtres. Et parce qu'il est Jésus, il y a d'autres gens qui sont là et cette femme qui est là. Alors j'imagine, peut-être je spécule, mais j'imagine que Simon le lépreux, je ne sais pas si c'était le nom de sa maison qu'il n'était pas là, je crois qu'il est là, mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'il est dans la maison de Simon le lépreux. Et ce n'est pas dit pour rien dans le texte. Il est dans la maison d'un lépreux, là où personne ne veut aller. Et il crée dans cet endroit un moment d'intimité par sa présence. Et un moment fondamental dans l'Évangile. Et donc Jésus, il fait deux choses. Il invite des gens chez lui et il s'invite chez les gens. Il fait les deux. Et nous, on doit imiter Jésus. On est appelé, lorsque les gens veulent venir chez nous pour être bénis, à avoir la porte ouverte et à les bénir. Mais on est aussi invité à aller chez ceux que personne ne veut aller. Il y a des gens chez qui personne ne veut aller. Qui sont trop bizarres, trop malades, ou je ne sais pas. Jésus, il va dans la maison de Simon le lépreux et il exerce son ministère dans la maison. Alors bon, en ce moment, on ne peut pas aller dans beaucoup de maisons en grand nombre avec le Covid, là. La Covid. C'est vrai. Mais en fait, on peut faire des choses en petit nombre qui sont autorisées avec les gestes et visiter des personnes qui sont seules. Et moi, je me rends compte dans mon église, en tout cas, que les gens les plus seuls, ce n'est pas ce que je croyais. Alors, il y a évidemment des personnes âgées en solitude. Ça existe. Dans mon église, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ce qu'il y a beaucoup dans mon église, c'est des étudiants isolés. Ce qu'il y a beaucoup dans mon église, c'est des célibataires dans la trentaine. Et en fait, des fois, on a les uns et les autres, pour certains qui ont cette chance-là, des familles, et on s'invite entre couples, entre familles. Et on oublie des tranches, par exemple, des trentenaires qui, bah oui, sont pas mariés, oui, ont pas d'enfants. Alors en couple, on va pas forcément penser à les inviter, mais eux, en fait, on se dit qu'ils ont une vie sociale, qu'ils peuvent sortir le soir, mais peut-être qu'ils sont seuls et en fait, ils ont besoin qu'on les invite ou qu'on s'invite chez eux pour passer du temps avec eux. En fait, en faisant ça, on est l'Église. On prend soin les uns des autres. Moi, ça me défie, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me défie en fait. La maison, ce n'est pas fait uniquement pour son confort. La maison, c'est fait pour bénir et servir. C'est un moyen, c'est une grâce que Dieu nous a fait, mais aussi pour que nous le mettions au service de son royaume. Et parfois, on a une compréhension très égoïste de la maison, surtout en Occident. C'est le lieu où personne rentre. C'est mon lieu à moi, mon confort, mais moi, mon. Oui, c'est vrai. Et Dieu veut ça. Il y a une partie de donner, de Dieu donne vraiment de la propriété personnelle, de l'intimité, de la sécurité personnelle. Mais il n'y a pas que ça. Là, je suis resté que dans l'évangile de Matthieu. Et rien qu'en balayant un peu dans l'évangile de Matthieu, on a vu que Jésus, dans les maisons, il fait de la guérison, de la délivrance, l'annonce de la remise de péché, la convivialité, l'accueil, de l'enseignement plus intime, une vie communautaire à la place de la solitude. Toutes ces choses-là dans les maisons. J'aimerais vraiment que nos maisons et nos églises de maison, en tout cas la partie maison de nos églises, soient ça. Soit des lieux comme ça. Et je voyais ce zoom dans lequel je vois une partie des gens qui sont dans l'église bâtiment et une partie des gens qui sont chacun chez eux, et les deux réjouissent mon cœur. Je me dis, c'est trop bien qu'un grand nombre puisse réunir, se voir, se retrouver. Et en même temps, je suis tellement content qu'il y a des gens qui sont dans différentes maisons réparties dans la région. Je me dis, les deux, ça témoigne de Christ. C'est beau. Et c'est un peu comme une image de ce que j'avais à cœur aujourd'hui. Dieu agit de différentes manières, au temple, à la synagogue, dans les maisons. Et c'est encore vrai aujourd'hui, en fait. Bien sûr, la première application à ça, bah, c'est un appel à la générosité, à la convivialité. Nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple de Jésus, bah, il faut qu'on soit ses imitateurs et que chaque semaine, nous pensions comment est-ce que nous offrons du temps et de l'amour en marque d'affection dans le contexte de nos maisons. Comment est-ce qu'on est une bénédiction pour nos voisins? C'est particulièrement important dans ce temps de confinement, peut-être plus que jamais. Confinement et couvre-feu, on se comprend. Une autre application, c'est l'intimité. Avec Jésus, l'intimité et le miracle, ça va ensemble. C'est une image de l'Église, en fait. Dans le lieu d'intimité avec Jésus, là, il y a le miracle. Et dans nos maisons, j'aimerais tellement voir, plus voir encore, des miracles dans nos différentes maisons. Et je crois que c'est une question de foi. Quand le paralytique, il rentre dans la maison, sa foi est là. Il croit vraiment que Jésus va faire quelque chose. Et la foi, c'est toujours la clé dans l'Évangile. Eh bien, est-ce qu'on a plus foi quand on va à l'église qu'au groupe de vie? Est-ce qu'on a plus foi quand on est dans un moment préparé d'église ou quand on est dans le quotidien de notre vie? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on croit que c'est le même Jésus qui est tout le temps là, tout le temps, partout? Alors, si on regarde le reste du Nouveau Testament, il est franchement évident que les maisons sont le lieu de l'Église primitive. Faut pas se cacher la face, les maisons sont très importantes dans le Nouveau Testament. Par exemple, on lit dans Actes 2, 46, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient le pain dans les maisons, ils rompaient le pain dans les maisons. Alors, les apôtres mangeaient ensemble. Ils rompaient le pain. Moi, je crois que ça renvoie à rompre le pain et à prendre le vin. Il y a d'autres interprétations. Il y en a qui pensent que c'est simplement prendre un repas. En tout cas, j'étais content de prendre le pain et le vin ce matin dans ma maison, d'avoir été encouragé à ça. Et je crois que il y a quelque chose de très très fort dans le dernier repas de Jésus. Vous savez, dans Matthieu 26, Jésus, il est à son dernier repas, il est dans la maison, il est encore à table et il va instituer la scène. C'est Matthieu 20, 26, il dit, le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Les moments de scène dans l'évangile, c'est des moments familiaux, ce n'est pas des moments religieux. C'est des moments où on est ensemble avec ceux avec qui on a vécu des choses. Et c'est le texte nous dit, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau dans le royaume de mon Père. Jésus est un repas dans une maison. Il va mourir et le prochain repas sera dans le royaume de son Père. En fait, il y a un thème entre la maison où il est et la maison du Père. Dans le royaume du Père. C'est un moment qui est tellement solennel dans l'Église, le pain et le vin, qu'on aurait pu croire qu'il l'aurait fait au milieu du temple. Il l'a fait à table avec ses douze. Et pourquoi en fait? Eh bien, évidemment, ça renvoie à la pratique juive de prendre un repas dans chaque maison pour célébrer la Pâque, de se réunir spécialement dans les maisons. Et c'était intéressant parce qu'en faisant ma petite étude, j'ai découvert un détail que j'avais jamais vu et qui m'a frappé, c'est que le mot synagogue, hein, le mot synagogue, c'est qui veut dire le rassemblement, si vous voulez, il est présent dans l'Ancien Testament pour la première fois où il est présent, c'est dans Exode 12:3, quand les Hébreux sont appelés à se rassembler dans les maisons pour prendre la Pâque. Il y a une fois où le mot existe avant, mais c'est quand Dieu a rassemblé les eaux en un seul endroit. Donc, c'est autre chose. Et la première occurrence du mot dans l'Ancien Testament, c'est le rassemblement de la famille, en fait, autour de l'agneau pascal. Et ça se passe dans les maisons. Et si vous voulez, le fondement de l'assemblée de l'Éternel, c'est autour du Christ dans la maison. Je trouve ça assez incroyable. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Et donc là, l'assemblée, c'est la synagogue. Enfin, si vous voulez, c'est le mot hadat en hébreu, mais il est traduit dans le grec de la Septante, synagogué. C'est la première mention de hadat et de synagogué, les deux. Dans les deux langues, c'est la première occurrence. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin. C'est le voisinage, là. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Un mâle âgé d'1 an, vous prendrez pardon, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et donc, bah, quand l'apôtre dit que Christ est notre Pâque, bien sûr, c'est une allusion à ce moment-là, le sang de l'agneau qui a été versé, qui a été badigeonné sur les linteaux des portes, pour que quand le châtiment de Dieu qui allait frapper l'Égypte, la dixième plaie, bah, elle ne frapperait pas ceux qui étaient dans la maison où le sang de l'agneau a été badigeonné et où les gens prenaient le repas. Eh bien, nous, c'est la même chose, en fait. On est avec Christ dans nos maisons et on a cette conviction qu'au jour du jugement dernier, Christ nous épargnera parce que nous avons l'agneau de Dieu chez nous, avec nous, dans nos maisons. L'échelle de la maison, c'est une échelle très importante dans la Bible. Et dans Exode 12, en fait, c'est l'échelle de l'obéissance au commandement de Dieu. On ne se rend pas toujours compte de ça. Parfois, on va à l'église pour enfin vivre notre vie chrétienne. Mais en fait, chaque Israélite, dans sa maison et dans sa famille, devait se mettre en règle avec ce que Dieu a demandé. Eh bien, nous, c'est pareil. On ne doit pas attendre le dimanche pour se mettre en règle avec Dieu. Chacun dans notre maison, on a à nous mettre en règle avec Dieu, à demander de nous purifier, de nous sanctifier, à nous repentir, à être à ses pieds, à trouver des moments dans la louange aussi, dans l'adoration, dans l'exultation d'allégresse, dans le privé. Notre maison est une église. Et le dimanche, c'est juste une plus grande église. Christ crucifié chez nous. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on vit? Christ ressuscité des morts chez nous. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on vit? J'aime bien par contre que dans la Bible, peu de baptêmes, on ne voit pas de baptême dans les maisons. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un moment public. On fait ça au Jourdain, on fait ça dehors. Et moi, ça ne me dérange pas. Il y en a qui veulent absolument qu'on baptise dans les maisons. Ça ne me dérange pas qu'on baptise à l'église. Loin de là. En fait, rien ne me dérange, en fait. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'on a la liberté des enfants de Dieu et que parfois, on est très légaliste sur des choses. On croit qu'on tient quelque chose de très important alors que Dieu regarde au cœur. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un moment public. Et moi, je trouve que parfois, les baptêmes... en grande église, que ce soit, ben vous avez la mer pas loin, c'est super. Que ce soit même dans une église avec un baptistère, c'est super aussi. Parce que c'est aussi un moment, quand les gens venaient se baptiser auprès de Jean-Baptiste, c'était un moment public. C'était un moment où on confessait ses péchés publiquement. C'était un moment où les gens, le monde savait. C'était pas qu'un moment intime. Il y a une affirmation. Donc, je crois pas que les maisons soient l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne. Mais c'est hyper important. C'est hyper important. Et l'échelle de la maison, c'est aussi l'échelle de l'amitié. Oui, Paul, dans Romains 16, 3 à 5, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Et saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Et il dit à Philémon, dans Philémon 1, 2, « À la sœur Aphia et Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. » Donc, il parle à l'église qui est dans la maison de Philémon. Il parle à l'église qui est dans la maison de Prisca et Aquilas. Et c'est des gens avec qui il a travaillé, c'est des gens avec qui il a de l'affection, c'est des gens qu'il aime. Et bien, il les connaît eux et il connaît aussi les gens qui se réunissent chez eux. S'il ne les connaît pas tous personnellement, il a entendu parler d'eux. Et donc, dans le Nouveau Testament, les apôtres, ils sont intéressés par ce qui se passe dans les maisons. Ils ne sont pas que intéressés par ce qui a l'air d'être tellement public, tellement glorieux, non. Salue les gens qui sont dans ta maison, avec toi. Moi, ça me plaît beaucoup personnellement de voir ça. Ce lien entre l'apostolat, les maisons. On a quelque chose de très organique, de très humain, de très dans le quotidien, dans la vie. Je ne crois pas trop, moi... peut-être je vais choquer certains, c'est pas grave, aux apôtres qui gèrent 5000 églises. Je crois pas à ça, moi. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça parce que ce n'est pas ce que je vois dans le Nouveau Testament. Moi, j'ai l'impression que Paul, il a une vraie relation avec chaque église dont il est l'apôtre. Et que Jean, il a une vraie relation, on le voit dans la lettre aux sept églises où il les appelle mes enfants, ou quand il écrit ses lettres, il appelle mes enfants plutôt, ou quand il parle des sept églises du livre de l'Apocalypse, on a l'impression qu'il les connaît, qu'il y a une situation qui est connue, et j'aime ça. Moi, j'aime l'idée que l'apostolat connaît les maisons, connaît les gens, est au contact. Paul était au contact. Paul, il s'intéressait aux gens qui vivaient dans les maisons, il s'intéressait aux gens qui subissaient la famine en Judée, et il est allé récolter dans les églises de l'argent pour eux parce qu'il y avait un besoin. Il ne fait pas du chiffre, il fait de la qualité. Il fait du relationnel. Et il met Christ en premier dans ces choses. Et non seulement il connaît ses maisons, mais par exemple dans 1 Corinthiens 16, 19, c'est l'inverse. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Donc, en fait, il dit aux Corinthiens qu'il y a des gens d'autres églises qui les connaissent. Il crée du lien entre les différents lieux de réunion qui sont dans les différentes maisons. Certainement, les frères de Rome, les frères, pardon, d'Asie, pardon, savaient des choses sur ce qui se passait à Corinthe. Et en fait, c'est tellement vrai que lorsqu'on connaît le premier siècle, on a l'évêque Clément de Rome, on se dit qui c'est ça, ça a l'air très catholique, machin. L'évêque, c'était l'ancien de l'église de Rome qui avait autour de l'an 96. Et certainement qu'il a connu Jean, l'apôtre, et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et quand on lit ses lettres, il écrit lui aussi des lettres aux Corinthiens, et avec une affection incroyable. Ce n'est pas nos mails vite faits d'organisation. Hein. C'est une affection incroyable. C'est une profondeur d'évangile incroyable. C'est une connaissance de la parole incroyable. C'est beaucoup d'affection, d'amour, de sollicitude. Et ça, c'est Paul a initié ça. Pierre a initié ça. Jean a initié ça. Et en fait, on est appelé à avoir à cet ADN d'église en église et de maison en maison. Vraiment quelque chose de très fort dans l'Église primitive. Je sais pas combien de temps il me reste. La maison, c'est un lieu tellement particulier. Jésus, il parle dans Luc 11, il dit, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Là, Jésus, il est en train de vous dire que Dieu, c'est votre voisin. Que Dieu, c'est celui que vous pouvez aller chercher au milieu de la nuit, frapper à sa porte et vous pouvez lui demander du pain. Ça donne une relation particulière à Dieu, un regard particulier sur notre relation à Dieu. Dans le Nouveau Testament, est-ce que j'ai un message pour me dire combien de temps il me reste? Si j'ai un message pour me dire combien de temps il me reste, c'est cool. Les maisons, c'est tellement important dans le Nouveau Testament que le diable cherche à y pénétrer. Et quand Paul était encore Saül, dans Actes 8.3, il est écrit, Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, en arrachant hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. Donc, l'église, c'est un endroit où il y a des hommes et des femmes qui sont réunis dans un lieu d'intimité. Et c'est tellement un instrument de Dieu que, merci, c'est tellement un instrument de Dieu que Paul peut s'y rendre pour y arracher des chrétiens. Et moi, ça me paraît fou d'imaginer quelqu'un venir chez moi alors que je suis réuni avec d'autres amis chrétiens. Mais dans d'autres contextes, dans l'église persécutée, dans différents pays du monde, c'est précisément ce qui se passe, c'est que la maison, c'est le dernier bastion de l'église. C'est le dernier endroit où l'église peut être. Parce que dans des endroits où l'église est persécutée, il n'y a pas le droit de lieu officiel. Et donc, en fait, les maisons sont tellement importantes dans les églises souterraines dans différents pays. Et c'est donc un maillon qu'il faut garder, conserver pour y vivre Christ. Et voilà, même si le diable veut s'emparer de ça. Peut-être un dernier point. J'en ai plusieurs, mais il ne me reste que 5 minutes. J'aimerais juste rappeler que la Pentecôte a eu lieu dans cette maison, dans la chambre haute. Et tous les disciples étaient réunis en un seul et même lieu. Et tout d'un coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et du coup, ça nous amène à comprendre que l'Église est une maison et que nos maisons sont des lieux de prière. Je ne fais pas trop de distinction entre la grande église bâtiment et les maisons. Pour moi, c'est juste deux espaces, l'un plus grand que l'autre, pour vivre la même chose. Et la maison, c'est le lieu où on se rassemble dans l'intimité des croyants et où on attend que l'Esprit agisse. Et il serait fou de croire que le Saint-Esprit ne vient que le dimanche ou que dans des grandes sessions d'évangélisation incroyables, dans des stades ou je ne sais quoi. Non, le Saint-Esprit s'invite dans votre maison. Et il voudrait que vous fléchissiez les genoux devant le Père pour que vous lui demandiez l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne et tombe chez vous. Alors, je sais qu'il faut de la créativité en temps de Covid pour tout ça et que c'est plus difficile de maintenir la communion les uns avec les autres et de vivre l'évangile, véritable évangile, dans nos maisons en ce moment. Mais je crois quand même que la parole, eh ben, elle est véridique en tout temps et dans tout contexte. Et quelque part, à vous de demander à Dieu la créativité pour vivre cet aspect de vos vies et pas seulement faire un devoir religieux en venant à l'église le dimanche, mais être participant du royaume avec vos maisons. Voilà, j'aimerais qu'on prie pour que nos maisons soient un lieu où la présence de Dieu se manifeste, un lieu de miracle, un lieu d'enseignement approfondi, un lieu où tout ce que j'ai dit, que faisait Jésus puisse être vécu aussi. Amen. Merci de m'avoir écouté.
Amen.